Alors, je vais vous proposer un petit travail qui m'arrivait de faire quand je m'occupais des gens du second degré. Vous voyez que, en fait, on mélange conjecture et démonstration. Hein, et ça, il va falloir faire le ménage là-dessus. Alors, moi, je vais vous poser un petit problème. Vous avez, vous voyez, il y a une équerre, là. Il y a des axes, là. Il y a une équerre qui se balade. On l'a fait se promener, cette équerre. Vous voyez, on l'a fait se promener. Comment se déplace le point M quand l'équerre glisse sur ces deux axes? S'il y en a qui savent, ils se taisent. Alors, je vais faire un petit sondage. Qui n'a pas compris la consigne? Bien. Quels sont ceux ou celles qui pensent que le point M se déplace sur un arc de cercle, on va dire? N'ayez pas peur, hein, levez le doigt bien haut. Bon, quels sont ceux ou celles qui pensent que le point M se déplace sur un segment? Quels sont ceux qui ne savent rien? Bon, mais il faut savoir voter là, de temps en temps. Bien, alors, vous avez 2 minutes pour faire une conjecture que vous allez formuler. Débrouillez-vous, trouvez du matériel. Donc ça, je l'ai fait. Vous allez bricoler, vous avez des feuilles de papier, tout ça en vitesse. Vous discutez entre vous pour confirmer, infirmer votre conjecture. On va refaire un petit sondage. Quels sont ceux ou celles qui pensent que c'est sur un arc de cercle ou quelque chose d'un peu... Bon, c'est à peu près. Quels sont ceux ou celles qui pensent que c'est sur un segment ou un segment de droite? Bon, il y a une bascule. Hein, on voit il y a une bascule. Apparemment, vous étiez 2 pour cette hypothèse et vous êtes nettement plus nombreux maintenant. Ça veut dire que grâce à du matériel, bon, je vous ai un peu pressé, je suis désolé, hein, grâce à du matériel, il y en a pas mal parmi vous, soit qui se sont forgés une opinion, soit qui ont changé d'opinion. D'autres sont restés sur, peut-être par manque de temps, donc il faut relativiser tout ça. Alors, on est dans la position d'une conjecture. Si je suis un professeur moderne, jeune et dynamique, je m'empare des outils informatiques et je vais montrer à mes élèves, j'ai utilisé l'environnement informatique. L'environnement informatique, qu'est-ce qu'il me donne? Alors, vous voyez, il y a l'équerre et je promène l'équerre. Bon, voilà, hein, c'était ça le but. Voilà. Bon, et qu'est-ce que je fais? Ben, je connais bien mon logiciel. Je vais demander à ce que ce logiciel me donne la trace de ce point-là. Hein, j'affiche la trace. Waouh! Eh bien voilà, c'est fait. Il n'y a pas besoin de formule. Les outils informatiques ont remplacé la démonstration. Bon, vous voyez que tout ça, il faut manier ça avec prudence, hein, en fait. Parce que si j'amène ça trop tôt dans la classe, bien, je vais ramer pour faire démontrer ça auprès des élèves, à supposer que l'exercice est de l'intérêt. Hein. Donc, vous voyez, l'idée d'une conjecture à l'aide d'une manipulation, ça fonctionne. Ça peut fonctionner à condition. L'idée d'utiliser des outils informatiques, des outils modernes, ça peut être la meilleure et la pire des choses, selon l'endroit où on le met. Hein. Et 3, on n'est toujours pas dans la démonstration. Alors la démonstration, elle est du niveau de classe de 4e, il y a une histoire d'angle inscrit. C'est pas très compliqué, puis c'est pas le but d'aujourd'hui, en fait. Hein. Donc on en reste une conjecture. Donc ça nous replace aussi, ça nous redéfinit la place des outils numériques qui peuvent augmenter les démarches ostensives, hein, et faire en sorte que... Il y a beaucoup d'élèves de collège qui vont dire bah, à quoi ça sert de démontrer, puisque ça marche, on voit bien que c'est du droit. Hein. Donc on revient sur des trucs très, très primitifs, hein. C'est la confusion entre l'ostension des objets matériels et une démonstration au niveau mathématique. Bon, tout ça pour dire qu'il faut y aller doucement. Manipuler l'enseignement des maths pour des raisons diverses, c'est de moins en moins appuyé sur des manipulations d'objets. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que les manipulations, ça motive les élèves. Donc ça, ce sont deux principes d'origine qu'on ne peut pas nier. Eh bien, là, les marchands du temple s'engouffrent là-dedans, hein, méthode de Singapour, Montessori, qui profitent de cette quête légitime, hein, de vouloir faire en sorte que les élèves s'accrochent à nouveau aux activités mathématiques. et ils vont vous vendre de la marchandise. Donc je reprends les propos de Mérieux, hein, la sacralisation du bricolage. Et puis quand c'est relayé justement par des vidéos comme celles que j'ai pu voir, on a tout lieu de s'inquiéter. Donc il est pour moi nécessaire de resituer le rôle des manipulations dans l'activité mathématique. Comment expliquer aux gens qu'à peu de choses près, une activité manipulatoire, ça peut conduire à rien du tout ou à un début d'activité mathématique. Alors pour ça, je joue un rôle qui est tout complètement discutable. Je fais deux activités en CP. Alors, on imagine deux enseignants, il y en a deux enseignants ou enseignantes, hein, ne me faites pas de misère, qui arrivent le matin, on dit « Qu'est-ce que tu fais ?»« Ah ben moi, tu sais, je vais faire le jeu de la boîte en CP, là. » On met des jetons dans les boîtes, on les met ensemble, et puis c'est le début de l'addition. « Ah ouais, mais c'est bien, tu me passeras les boîtes à la récré, mais je vais le faire, moi. » Alors on va regarder un peu ce que fait le premier enseignant. Ça y est, il fait autre chose que moi. Le premier enseignant, il s'adresse aux élèves, il dit « Regardez les enfants, ce que je mets dans la boîte. » On est en CP, les gosses, ils vont 1, 2, 3, 4, bien. Regardez ce que... Il y en a bien 4, oui. Regardez ce que je mets dans l'autre boîte, c'est vide. 1, 2, 3. Et il va au tableau. Et alors on va dire le maître A, le maître B ou la maîtresse. Hein. Dans le premier temps, il a écrit 4. Dans le deuxième temps, il a écrit 3. Et il dit aux enfants, ben regardez ce que je fais maintenant. Je mets tout dans la boîte. Ça va être dur. Demain. Je mets tout dans la boîte, regardez, et il appelle un élève qui avait suivi et qui lui fait le compte, qui recompte ce qu'il y a dans la boîte. Et l'élève, s'il ne se trompe pas, il va dire 7. Et l'enseignant va dire, bah, regardez les enfants, 4 plus 3, ça fait 7. Bien. Alors, il va faire ça sur plusieurs exemples, je n'ai pas le temps. Hein. On va laisser les boîtes à l'enseignant après la récré. Et l'enseignant, après la récré, qu'est-ce qu'il fait? Alors, je tiens le micro, la boîte, les cubes, je ne sais pas si je vais y arriver. 1, 2, 3, 4 dans la première boîte. 1, 2, 3 dans la deuxième. Il va écrire 3 et 4. Et il dit aux enfants, regardez les deux boîtes, je mets tout dans une seule boîte. Je ferme la boîte. Et vous savez là qu'il y en a 4, qu'il y en a 3. Je vous demande de prévoir, vous prenez votre ardoise, vous prenez une feuille de papier, ça dépend des pratiques pédagogiques, hein. Vous prenez votre ardoise, vous essayez de prévoir à l'aide de signes, enfin vous dessinez, vous faites ce que vous voulez, vous essayez de prévoir quand on ouvrira la boîte, combien on va trouver de cubes dans la boîte. Alors qu'est-ce qui se passe? Ben, les enfants, ils ont chacun leur degré de savoir, hein. Il y a le fils du prof, il sait que ça fait 7, hein, il n'y a pas de souci. Il y en a qui vont représenter la collection, hein. C'est-à-dire se la présenter en la signifiant par du signe. Hein. Et puis après, ils vont faire du comptage sur comptage, ce n'est pas mon problème aujourd'hui. D'autres qui vont dessiner des bâtonnets. Oh, j'ai les exemples, enfin. D'autres qui vont dessiner 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Prendre les signes comme des représentants des objets et qui vont compter les signes. Bon, il y a tout un panel avec les signes qui peuvent être écrits à l'envers. Je passe là-dessus, j'en passe des meilleurs. En fait, le prof... Il réserve un temps pour que les enfants produisent du signe. Et à la fin, il va ouvrir la boîte. Il va dire aux enfants, bon, combien t'as trouvé, toi? Combien t'as trouvé? T'as trouvé combien, toi? J'ai trouvé 7, j'ai trouvé 7, j'ai trouvé 8, je sais pas. Bien, on ouvre la boîte et on s'aperçoit que ça fait 7. Donc, il y a des hypothèses qui sont réfutées, qui sont confortées, et le prof va pouvoir écrire 4 plus 3 égale 7. Un inspecteur ou un observateur qui rentrerait dans les deux classes verrait la même chose écrite au tableau. 4 plus 3 égale 7, la même chose écrite au tableau. Ben, vous avez bien compris que c'est le rapport au savoir dans les deux classes n'est pas du tout le même, bien sûr. À gauche, il y a ce que Chevalard appelle des écrits « visite des monuments », il dit. Hein. C'est-à-dire, sigille, addition, découvrez-vous, là, vous l'apprenez, là voilà. Quoi. Il fait ça à propos du théorème de Pythagore. À droite, c'est... Il y a eu des écrits. Le professeur a permis qu'un espace se crée. L'enfant a été privé du milieu matériel pour le remplacer par du signe et faire en sorte que son travail soit un travail d'hypothèse, en quelque sorte. Et après, il va falloir qu'effectivement le prof fasse évoluer ses signes. Bien. Alors moi, je me sers de ça en formation pour justement faire en sorte qu'il y ait un débat assez clair, assez simpliste, hein, vous me direz, assez clair sur l'idée des manipulations. Hein. Manipuler à outrance, le maître A, les deux, on pourrait dire que les deux manipulent. Mais il y a un rapport au savoir qui est complètement différent, donc c'est ce que je mets. Hein. Deux activités qui se ressemblent, une pratique ostensive, hein, des ostensifs dans le maître A, et un langage d'énonciation chez le maître B, avec des hypothèses, et une validation qui ne peut être que pragmatique, c'est-à-dire on va valider par le matériel. C'est vrai qu'à terme, on pourrait des gosses, enfin l'idée c'est qu'à terme, les gosses disent « mais t'as pas besoin d'ouvrir la boîte, parce qu'on sait que… » Et là, on arriverait à une validation au niveau syntaxique, là, hein, c'est-à-dire des théorèmes qui commencent à s'élaborer. Et ça, c'est toujours ce qu'un enseignant devrait avoir en tête, en disant « je vais tirer vers le haut et avoir, ne plus avoir besoin à un moment donné du milieu matériel hein. ». Donc, l'illusion entretenue d'une même séquence de classe, deux formes radicalement différentes de rapport au savoir et deux formes différentes de rapport à l'écrit. Bien. Je persiste à penser que cette petite activité de formation, ça fait gagner du temps, ça évite de grands discours sur... et ça permet d'engranger, si on a le temps, de travailler la notion de milieu, qui est un terme qui est utilisé en didactique, hein, c'est-à-dire au sens écologique du terme. Hein. C'est le même milieu de référence, c'est-à-dire il y a classe, c'est les mêmes conditions de température et de pression, ce sont les mêmes boîtes, ce sont les mêmes cubes. Sauf que le scénario qui a été organisé par le professeur n'est pas le même que ce soit le A ou le B, quoi, en fait. Hein. Bon, donc la diapo, là, ne fait que répliquer. Alors, il faut faire attention toujours dans ces cas-là, parce qu'une manipulation, moi, je les appelais de type 1 et de type 2, une manipulation de type 1, elle est intéressante pour expliquer la règle du jeu. Je joue à un jeu, tu vas jouer à un jeu, mais un jour, les boîtes seront fermées. Et le vrai jeu, ça sera celui-là. Hein, c'est-à-dire on ne confond pas une activité qui explique la règle d'un jeu et une activité qui est le jeu lui-même. Alors, petite anecdote en passant, nous, quand on le fait en classe, pendant que les élèves font leurs hypothèses, bien sûr, on est dans la posture B, on enlève un cube ou on en rajoute un, à condition d'être sûr de son coup. On ne fait pas ça avec les débutants. Hein. On enlève un cube ou on en rajoute un. Et on ouvre la boîte. Et on a réussi son coup lorsque les gosses disent « c'est pas possible, il se passe quelque chose ». C'est-à-dire où les enfants ont plus confiance en leur modèle qu'en la réalité. Ouais. Bon, mais ça, on verra ça jamais dans un bouquin, y compris dans le guide du prof. On n'ose même pas le mettre parce qu'on se ferait hacher menu. Donc, voilà. Donc, ouais, alors... Pour le conseil, en formation, ce type d'approche comparative me permet de prendre du recul par rapport au discours actuel, hein, ce que Brousseau appelle les rétro-novateurs, hein, qui annoncent la manipulation comme un remède aux incompréhensions en maths. Il faut, bien sûr, on travaille à partir du matériel, hein, mais il faut s'en affranchir. Enfin, l'objectif, c'est de s'en affranchir, bien sûr. Hein. Bon, donc je vous aurai le diaporama. Le diaporama, moi j'ai un site, vous l'avez peut-être noté au début, tout sera en ligne, y compris des documents complémentaires. J'ai écrit 3 articles sur la manipulation ces temps-ci. Donc c'est sur le site ddm.joel.brillant.free.fr. Je vous le redirai à la fin. Hein. Bien, alors le problème, parce que hier j'entendais dire il faut se dessaisir des manuels, tout ça. Moi je suis arrivé très tard dans le milieu de l'édition, donc j'ai un pied du côté de la recherche, un pied du côté de l'édition. Je n'ai pas de position précise là-dessus. La simple position, c'est qu'il faudrait que dans tout manuel, on est à la fois quelque chose qui encourage les gens à faire une manipulation, mais au sens au type 2, hein, une manipulation adéquate. Et puis, on a ce triptyque en général, quels que soient les ouvrages, hein, c'est-à-dire un endroit où on dit ben, faut faire une manipulation, un endroit où il y a une évocation de la scène, et un endroit où on passe à l'écriture formelle. Bah, l'évocation de la scène, c'est pas ça qui fait faire des maths. C'est pas parce que je regarde un match de foot à la télé que j'ai des courbatures. Hein. Donc, c'est le match de foot, c'est faut mouiller la chemise, enfin ou plutôt le maillot, les crampons. C'est la bière et la télévision. Hein, l'évocation à l'aide d'images et de textes. Hein. Et l'écriture formelle, bien sûr, c'est la cerise sur le gâteau. Donc, il faut faire cette analyse-là. Pareil en formation, je pense que ça prend pas beaucoup de temps. de dire aux gens, bah, écoutez, les gens, quelles que soient les éditions, ils font des guides du prof. S'il y a des guides du prof, c'est signe qu'il y a une incitation à faire, pas toujours, de temps en temps, une manipulation, et peut-être une manipulation qu'il faut peut-être la regarder de près. Alors, les guides du prof, c'est pas marrant, il y a 3 pages à lire, on a 8 disciplines. Je sais que ça, c'est une négociation en formation qui n'est pas simple.